driver of its economy.
D'entre faiseurs, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Bonjour à vous ceux qui nous écoutez, vous êtes sur Graphite 94.9. Bienvenue dans les échos de l'innovation, l'émission qui scrute les avancées technologiques et les idées qui façonnent notre futur. Alors nous sommes quatre élèves de l'Université technologique de Compiègne, je suis Julie et aujourd'hui je suis avec Augustin.
Salut.
Luna.
Konnichiwa.
Et Fares.
Hello.
Alors nous allons entamer tous ensemble un voyage fascinant à travers un concept qui a longtemps appartenu au domaine de la science-fiction. Le transhumanisme. Alors peut-être que certains en ont déjà entendu parler, peut-être pas du tout, mais l'objectif aujourd'hui va être de vous éclairer avec comme ligne directrice la mort de la mort, illusion, réalité ou fantasme. Alors cette première partie de notre émission, intitulée « Le transhumanisme, utopie ou évolution inéluctable de la science-fiction à la réalité », nous plonge dans l'histoire et l'actualité d'un mouvement qui rêve de transcender les limites humaines. Alors le transhumanisme, ce mouvement philosophique et scientifique qui prône l'amélioration de l'humain par la technologie, suscite autant d'espoir que de controverses. Et au programme de cette première partie, nous aborderons les enjeux éthiques du transhumanisme, le futur auquel notre monde va être confronté, la quête d'immortalité et les promesses que nous font les transhumanismes, pour enfin aborder un cas concret, petite histoire d'un transhumanisme. Alors restez avec nous pour cette exploration captivante de l'avenir de l'humanité. C'est parti pour les échos de l'innovation et le transhumanisme, utopie ou évolution inéluctable. Alors dans cette première rubrique, nous allons aborder ensemble un concept qui a longtemps été le terrain de jeu des écrivains de science-fiction, le transhumanisme.
Mais alors qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ?
Alors le transhumanisme, c'est avant tout une idée. Utiliser la science et la technologie pour repousser les limites de l'humain, de son corps et de son esprit. Ce mouvement veut, au-delà des progrès médicaux et de la médecine traditionnelle, qui a permis d'augmenter certes notre espérance de vie de manière significative, en visant des objectifs bien plus ambitieux, c'est-à-dire pas seulement atteindre les 86-87 ans. Imaginez cette fois-ci un humain non seulement guéri de la vieillesse, mais capable de vivre 1000 ans ou plus grâce à des avancées technologiques radicales, comme je sais pas, les implants biomécaniques, l'intelligence artificielle ou encore la modification génétique. Alors à ce stade, la distinction avec la médecine classique devient claire. La médecine aujourd'hui cherche à soigner seulement, réparer, soulager les souffrances, tandis que le transhumanisme rêve d'améliorer l'humain, d'aller au-delà de notre corps naturel et ce qu'il peut supporter. Alors cette idée de prolonger la vie éternellement ou d'améliorer notre capacité humaine au-delà du naturel, est-ce que c'est une simple utopie ou est-ce que c'est une évolution qui est inéluctable ? Certains transhumanismes, par exemple, affirment que l'humain capable de vivre 1000 ans est déjà né et qu'il est désormais question de savoir quand et comment cette révolution aura lieu. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la convergence NBIC, la convergence donc des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives. Une alliance technologique qui pourrait bien ouvrir des portes jusqu'alors inimaginables.
Mais quelles sont les technologies les plus prometteuses du transhumanisme aujourd'hui ? Et jusqu'où sont-elles déjà utilisées ?
Aujourd'hui, plusieurs technologies semblent déjà être sur le point de réaliser des rêves du transhumanisme. Prenons par exemple l'exemple des implants rétiniens qui redonnent la vue à des personnes malvoyantes. Au-delà de la médecine réparatrice, ces technologies pourraient donc un jour permettre d'améliorer la vision humaine de manière inédite, en implantant des dispositifs électroniques dans l'œil, même de personnes en parfaite santé. On parle aussi de l'intelligence artificielle qui, à terme, pourrait non seulement améliorer nos capacités cognitives, mais aussi nous aider à dépasser nos limites naturelles. Dans un autre cadre, on parle également de projets de manipulation génétique pour éliminer des maladies héréditaires ou modifier certaines caractéristiques physiques, qui sont également en voie de développement. Alors, le rêve ultime des transhumanismes, c'est voir un jour l'humain capable de se réinventer à travers des techniques de régénération cellulaire ou d'upload de conscience. Autrement dit, le transférer notre cerveau sur une machine pour échapper à la mortalité physique. Mais attention, derrière ces rêves, plusieurs questions se posent. Si ces technologies sont prometteuses, elles ne sont pas sans soulever de nombreux débats éthiques, sociaux et politiques. Qui aura accès à ces avancées ? Est-ce que ces progrès ne risquent-ils pas d'aggraver les inégalités sociales en créant une fracture entre les humains dits « augmentés » et ceux qui ne pourront pas se permettre de suivre ce progrès ? Et l'accès à l'amélioration de l'humain au-delà de la médecine, est-ce que ça ne deviendra pas un nouveau privilège réservé à une élite parmi plein d'autres choses ? Alors, prêt à découvrir comment le transhumanisme passe de la science-fiction à la science actuelle, restez avec nous pour la suite de cette première émission. Mais du coup, de quand ça date le transhumanisme ? Le transhumanisme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas né du jour au lendemain. Son histoire remonte à bien plus longtemps et ses racines plongent dans des mythes anciens, des idées philosophiques et des découvertes scientifiques qui se sont succédées à travers les siècles. Alors, tout commence avec le rêve humain de dépasser ses propres limites. ce rêve de transcender la condition humaine, de conquérir la mort et d'accroître nos capacités, eh bien tout cela, cela remonte à des époques très anciennes. Et on peut même remonter au mythe de Prométhée, qui était donc un titan dans la Grèce antique, qui, en offrant le feu de la connaissance aux hommes, leur a permis de se libérer de leurs chaînes naturelles. Un peu comme si la technologie venait briser les lois de la nature pour élever l'homme. Et eh bien cette quête de transcendance ne s'est jamais éteinte, bien au contraire. Au fil des siècles, l'idée de dépasser les limites humaines se nourrit de découvertes scientifiques. Et c'est véritablement au XXe siècle que le transhumanisme prend forme en tant que mouvement intellectuel distinct. Avec, dans les années 30, en France, certains penseurs commencent à envisager un avenir où les technologies seraient utilisées pour améliorer l'humain. Cependant, dans les années 50 et 60 aux États-Unis, c'est à ce moment-là que le transhumanisme se structure véritablement, avec des figures comme Julian Huxley, qui est un biologiste et philosophe qui commence à théoriser sur ce qui pourrait être un futur humain augmenté, prônant une évolution de l'humanité grâce à la science. Mais ce mouvement atteint vraiment la scène publique et le débat public dans les années 80, puisque l'idée de transhumanisme gagne en popularité, avec notamment le progrès donc des nanotechnologies, comme j'ai déjà pu l'évoquer, ainsi que les premières réflexions sur la cryogénisation. Alors qu'est-ce que c'est la cryogénisation ? C'est ce qui permettrait en fait un jour de ressusciter quelqu'un en le gelant après sa mort. Et donc c'est à ce moment-là que des groupes comme la World Transhumanist Association, qui est également aujourd'hui renommée Humanity Plus, qui émergent pour soutenir et promouvoir ces idées et donc le répandre à la scène publique, comme je l'ai dit. Puis en 1990, Max Moore, un philosophe et futuriste américain, propose une définition plus claire du transhumanisme. Il écrit « Le transhumanisme, c'est une classe de philosophie ayant pour but de nous guider vers une condition post-humaine. » Alors cette idée de post-humanité devient l'un des principes fondamentaux du mouvement. Il envisage un avenir où les humains ne seront plus simplement des êtres biologiques, mais des êtres technologiques, augmentés, voire même immortels. Puis c'est dans les années 2000, avec l'essor des technologies comme les nanotechnologies, l'intelligence artificielle et la génétique, que les ambitions du transhumanisme s'intensifient réellement. On parle alors de la convergence NBIC, comme je l'ai déjà dit au début. Un terme qui désigne donc l'interconnexion croissante de ces technologies pour améliorer les capacités humaines. Alors pour faire un petit point sur chacun de ces termes, les nanotechnologies concernent l'étude et la manipulation de la fabrication de matériaux, structures et dispositifs à l'échelle nanométrique, avec un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de la médecine, avec par exemple les nanomédicaments. Pour ce qui est des biotechnologies, elles font référence à l'utilisation de systèmes biologiques, d'organismes vivants et leurs dérivés pour développer ou fabriquer des produits spécifiques. Elles incluent donc la génétique, l'ingénierie des protéines, la bioinformatique et les thérapies géniques. Et donc toutes ces applications vont en majorité dans le domaine de la médecine avec les traitements et les vaccins. Pour ce qui est de l'informatique, dans ce contexte, cela fait référence aux progrès en matière de calcul, d'IA, de systèmes embarqués, d'algorithmes, de traitement de données massives, donc les big data, et de stockage. Ainsi, l'IA joue un rôle central dans l'analyse de données en biotechnologie. Pour ce qui est des sciences cognitives, elles étudient le fonctionnement du cerveau et de l'esprit humain en intégrant des approches issues à la fois de la psychologie, des neurosciences, de la philosophie, de la linguistique et de l'intelligence artificielle. Ainsi, ces disciplines peuvent offrir des insights précieux pour le développement de technologies avancées, telles que donc l'IA et les interfaces cerveau-machine. Ainsi, ces quatre domaines interagissent de manière multidisciplinaire et se croisent de plus en plus, donnant lieu à des innovations révolutionnaires dans plusieurs domaines. Alors, pour donner un simple exemple de crossover, par exemple, l'informatique et les sciences cognitives. Les avancées en IA et en machine learning peuvent donc aider à modéliser le cerveau humain, tandis que les recherches en sciences cognitives inspirent de nouvelles architectures d'IA, comme les réseaux neuronaux. En retour, l'IA peut être utilisée pour simuler et comprendre les mécanismes cognitifs humains. Une autre application peut lier par exemple la nanotechnologie et les sciences cognitives. Ainsi, les interfaces cerveau-machine ou les implants neuronaux peuvent bénéficier des avancées en nanotechnologie permettant de créer des dispositifs miniaturisés pour améliorer la communication entre le cerveau et les appareils électroniques. Nous avons donc bien des liens entre ces quatre disciplines. Aujourd'hui, le transhumanisme est désormais devenu un véritable mouvement mondial, non seulement porté par des chercheurs et des philosophes, mais aussi par des entrepreneurs et des investisseurs qui voient dans ces technologies un potentiel économique considérable. Ce qui était un rêve d'immortelle spéculation devient aujourd'hui un projet scientifique technologique plus ou moins concret, bien que toujours en pleine évolution. Et cette histoire, on peut dire qu'elle est loin d'être terminée, mais il faut savoir prendre du recul vis-à-vis de ces promesses. Qu'en est-il de la réalité ? Et il faut garder son esprit critique face à l'émergence de ces mouvements. Et c'est bien ce que l'on va tenter de faire dans la suite de cette émission, afin d'éviter de tomber dans le piège et qu'il se referme sur nous-mêmes. Alors je vais désormais laisser la parole à Luna, qui va aborder avec vous les questions d'éthique.
Merci beaucoup Julie. Donc, comme elle l'a expliqué, au cours des 10 dernières années, la science et la médecine ont considérablement améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie et des personnes malades ou handicapées. Aujourd'hui, des techniques innovantes comme les pacemakers ou la fécondation in vitro sont courantes. À l'avenir, ces technologies élimineront le risque de maladie, de handicap et réduiront même le vieillissement en repoussant les limites de la condition humaine. Cependant, cette chance soulève des questions éthiques fondamentales. Les transhumanistes soutiennent les nouvelles technologies et la singularité où l'homme et la machine redeviennent un tout. Cela crée de nouvelles humanités, par exemple des hommes augmentables. Mais si l'amélioration artificielle devient la norme, ne risque-t-on pas de privilégier un type d'individu normal au détriment de ceux qui ont des déficiences ? Peut-on vraiment garantir que ces améliorations nous rendront meilleurs ? Afin d'introduire cette section, je vais vous lire les paroles de J.F. Poisson, ancien député de l'Assemblée nationale de France, possédant un doctorat en philosophie. Il dit que, sur le plan pratique, les limites de la condition humaine ne peuvent raisonnablement garantir qu'un nouvel homme formaté à la lumière des connaissances humaines serait meilleur que celui que nous sommes. L'incapacité humaine à prévoir l'avenir, à maîtriser la matière et ses productions parfois hasardeuses ne rassure pas sur l'ambition de refaire l'homme, ambition à la fois illusoire pour une grande part et parfaitement imprudente. Ainsi, il souligne que les limites de notre condition humaine ne garantissent pas le fait qu'un nouvel homme amélioré serait supérieur à celui que nous sommes aujourd'hui. De fait, l'idéal d'une société plus juste et égalitaire promue par le transhumanisme est problématique, car l'accès aux technologies d'amélioration pourrait renforcer les inégalités sociales. Ces interrogations nous amènent à réfléchir jusqu'où nous devons-nous aller dans notre quête du surhomme ? Qu'en est-il éthique d'améliorer un corps humain ? Devons-nous poursuivre ces recherches ? Quelle pourrait être cette nouvelle société ? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette rubrique. Avant de répondre à ces questions, il est important de réfléchir à la signification de l'éthique. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, l'éthique est la science qui examine les principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. Elle ne se contente pas de définir ce qui est bon ou mauvais, mais elle aide également à choisir quelle action entreprendre en conformité avec des principes éthiques. Maintenant que nous avons défini le terme d'éthique, nous allons nous pencher sur les différents problèmes éthiques qui émergent dans le cadre du transhumanisme. Un premier problème concerne la justice sociale. Beaucoup de personnes s'inquiètent du fait que si nous commençons à améliorer nos capacités humaines, une nouvelle division apparaîtra. Cette division séparera ceux qui utilisent ces technologies et ceux qui ne le peuvent pas les utiliser ou ceux qui, pour une raison ou une autre, ne le veulent pas. Cela pourrait souvent aggraver les inégalités ou les privilèges socio-économiques existants. De plus, certaines personnes pensent que ce risque justifie d'interdire des interventions pour garantir l'égalité des chances, exactement comme le dopage est interdit dans le sport. Par exemple, certaines universités ont interdit l'utilisation de médicaments psychotropes pour des raisons non médicales, comme l'amélioration des performances académiques. En revanche, certains penseurs comme Julian Savulescu, un philosophe et bioéthicien australien, affirment que la loterie naturelle n'est pas juste. La criminalisation et l'interdiction de l'amélioration renforcent ce processus enraciné d'inégalités dues à la naissance. Selon eux, ces interventions pourraient aider les personnes moins douées à se rapprocher de celles qui sont plus favorisées. Un exemple notable de technologie transhumanisme soulevant des questions éthiques est celui des implants neuronaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter Neuralink, qui est une start-up américaine cofondée par Elon Musk, un entrepreneur et milliardaire sud-africain, en 2016, qui développe des dispositifs permettant de connecter directement le cerveau à des machines ou des systèmes informatiques. Les applications de Neuralink sont diverses. Par exemple, il y a la restauration de fonctions perdues, comme la vue ou la mobilité, l'amélioration des capacités cognitives, mémoire, vitesse de réflexion, ou le contrôle d'ordinateur par la pensée. Cependant, leur développement pose des problèmes éthiques. Tout d'abord, leur coût pourrait aggraver les inégalités sociales en réservant ces technologies à une élite riche. En effet, le coût des implants neuronaux comme ceux de Neuralink n'est pas encore fixé. Cependant, nous pourrons estimer que ces dispositifs pourront atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros en raison de la complexité des matériaux et des procédures nécessaires. La question du consentement est également essentielle. En effet, ces implants pourraient être imposés par des employeurs ou des gouvernements dans le but d'augmenter la productivité ou de surveiller les individus. De plus, ils soulèvent des questions sur l'identité humaine, remettant en question les frontières entre l'homme et la machine. En outre, le risque de piratage de ces implants connectés expose les utilisateurs à des manipulations ou à des violations de leur vie privée. Enfin, les effets psychologiques tels qu'une éventuelle déconnexion de l'identité personnelle suscitent également des inquiétudes. Bien que ces implants soient innovants, ils soulèvent des questions éthiques concernant la distinction entre réparer et améliorer l'humain. Si l'efficacité de certaines innovations qui ont été beaucoup médiatisées, telles que les drogues pour améliorer l'apprentissage, est incertaine, il ne fait aucun doute que la puissance des ordinateurs et des systèmes d'IA augmente rapidement. Des technologies plus avancées, comme les assistants virtuels tels que Alexa et Siri, les véhicules autonomes ou les systèmes de reconnaissance faciale perturbent déjà des industries bien établies avec du potentiel de perturbations supplémentaires dans la mobilité, la sécurité et plus encore. Ce changement est déjà en train de se produire dans notre société et pourrait se poursuivre bien avant que les technologies ne connaissent les limites de la capacité humaine. C'est pourquoi l'éthique de l'augmentation humaine est essentielle pour établir des règles et des responsabilités qui respectent la dignité humaine. Cela signifie une éthique de la précaution et de l'attention intégrée aux protocoles de recherche. Les États doivent également réglementer pour limiter l'accès aux technologies, à des usages thérapeutiques, évitant ainsi les inégalités sociales et les usages non essentiels. Tout d'abord, les réglementations concernant les manipulations génétiques peuvent être basées sur les règles existantes. Par exemple, certaines d'entre elles peuvent suivre la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme, faite en 2006. Ces règles doivent également être approuvées par les comités nationaux de bioéthique qui servent d'autorité pour les autorisations et les interdictions. Cependant, il est essentiel de promouvoir l'éthique dans la formation et la science pour maintenir un équilibre entre la culture scientifique et la culture éthique. En bref, l'innovation doit être entourée par l'opinion publique et les mécanismes de contrôle. La mort de la mort, illusion, réalité ou fantasme. La chanson Forever Young d'Alphaville, parue en 1984, illustre bien notre désir de rester jeune et de défier le temps. Ce groupe allemand, célèbre dans le genre synth-pop, aborde des thèmes qui touchent à la quête d'immortalité. Couldn't wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Raising our needle.
Vous êtes toujours sur la radio 94.9 et c'est toujours les échos de l'innovation. Ici, nous traitons du sujet du transhumanisme, la mort de la mort, illusion, réalité ou fantasme. Notre troisième rubrique intitulée « Le futur » sera traitée donc par Fares.
L'évolution exponentielle des technologies et les bouleversements quotidiens en neurosciences, informatique, biotechnologie et nanotechnologie donnent une couleur intrigante et mystérieuse vis-à-vis du futur où ces technologies auront la chance de se développer et intégrer nos vies. Afin de mieux voir au clair le futur transhumaniste, il est nécessaire de s'ancrer dans les promesses transhumanistes, à savoir en trois temps. Premièrement, l'intégration aux machines. La fusion de l'humain avec la machine pourrait permettre l'intégration de la conscience dans des éléments ou des environnements virtuels. Ces consciences augmentées ou virtualisées pourraient offrir un nouveau sens à l'existence. Similaire à celle que procurent certains jeux vidéo, prenons l'exemple de Cyberpunk 2077, un jeu devenu un classique depuis sa sortie en 2020. Le concept envisage un futur où les êtres humains, désormais des cyborgs, deviennent une entité hybride mélangeant biologie et mécanique, pensée et algorithme. Et sont donc augmentés par des membres artificiels surpuissants, des interfaces neuronales pour accéder instantanément à des bases de données et accomplir les différentes histoires et quêtes proposées par le jeu. En effet, Cyberpunk repose sur un modèle narratif où l'on vit une histoire en fonction de ses choix dans le jeu. Dans l'une des fins possibles, intitulée New Dawn Fades, le protagoniste 5 choisit de transférer sa conscience dans le cyberspace pour fusionner avec une entité numérique appelée Alt Cunningham. Cette décision marque un abandon définitif de son corps biologique et une immersion complète dans un environnement virtuel où la conscience devient indépendante des limites physiques. Poussé à l'extrême, ce futur pourrait permettre de transférer, stocker, voire reproduire la conscience humaine, transformer la mort en une simple transition vers un autre support. Ce processus, parfois qualifié de « mind uploading », téléchargement de l'esprit, serait une étape vers une forme d'immortalité numérique où les individus pourront exister indéfiniment dans des mondes virtuels conçus pour répondre à tous leurs désirs. Ensuite, l'amélioration des capacités physiques et mentales. Le transhumanisme envisage l'augmentation des performances humaines grâce à des interventions technologiques. Cela inclut des pratiques classiques transhumanistes comme le renforcement musculaire, les organes artificiels et l'implantation cérébrale pour augmenter les capacités cognitives. Blay Whitby, spécialiste de l'intelligence artificielle et expert à l'université du Sussex, déclare « Nous approchons désormais du moment où, dans certains sports de piste, comme le sprint de 100 mètres, les athlètes qui courent avec des lames en fibre de carbone pourront surpasser ceux qui courent sur leurs jambes naturelles. » En effet, dans l'industrie du fitness, ces individus sont appelés les non-naturels. Des humains utilisant des stéroïdes, des drogues ou des technologies similaires que vous avez sûrement vues dans votre salle de sport locale si vous visitez une salle de sport. Une revue de PubMed de 2018 a montré que ces individus peuvent gagner jusqu'à deux fois plus de masse musculaire qu'une personne naturelle ou normale. Et enfin, la prolongation de la vie humaine, voire l'immortalité. Les avancées médicales visent à retarder le vieillissement et à éradiquer les maladies, avec l'objectif ultime d'atteindre une forme d'immortalité. Cela pourrait être atteint de manière durable à travers les générations grâce aux modifications génétiques et à l'ingénierie génétique. De telles modifications affectent le tissu social et il serait alors naturel de s'interroger sur l'impact de l'introduction des techniques génétiques ou transhumanistes en général sur la société. C'est ainsi que l'on aborde l'aspect socio-technique du transhumanisme. Dans un futur proche à la manière du film Gattaca 1992, la génétique aurait pris le pouvoir dans tous les aspects de la société. Elle serait désormais le critère principal pour distinguer les individus. Les invalides sont ceux qui sont nés naturellement, tandis que les valides sont ceux en laboratoire, sont ceux conçus en laboratoire. Vincent Freeman est né de manière naturelle. Dès sa naissance, les médecins expliquent qu'il a seulement 10% de chance de dépasser 30 ans et qu'il connaissait la cause de sa mort à un intervalle de confiance de 99%. En revanche, son frère étant valide et favorisé car il représente le meilleur de ses parents. Le meilleur des deux patrimoines génétiques. Ce qui caractérise cette société dystopique, c'est son déterminisme. La vie des gens est prédite dès leur naissance. Les valides auront accès à l'éducation, aux meilleurs emplois, aux prêts, aux assurances, etc. de manière analogique à la révolution industrielle avec l'émergence de la classe prolétarienne, ça veut dire la classe des travailleurs, et le concept de déterminisme social introduit par Karl Marx. Il devient nécessaire de distinguer la classe sociale des invalides, dont Gattaca. Depuis tout jeune, Vincent rêve de devenir astronaute, mais ce type de profession est réservé aux valides. Même avant son entretien, la réponse est déjà connue, même en mentant sur son génome, des tests surprises sont mis en place pour réparer les invalides. Bien que la discrimination soit interdite légalement, les entreprises prévoient des tests comme l'analyse de l'urine ou d'autres traces laissées par les employeurs pour déterminer leur patrimoine génétique sans qu'il soit formellement stipulé que cela constitue une discrimination. Pour clôturer et clarifier ces propos, je vous propose de vous plonger dans une histoire que j'ai écrite sur la journée de Somo, un cyborg chanteur-athlète. Simor, équipé des derniers prothèses de pointe, remporte une médaille d'or lors des Jeux Olympiques de 2040. Pourtant, au sommet du podium, une question le hante. Son succès est-il réellement le sien? Son père, PDG de Nora, lui a réservé la meilleure jambe bionique. Au lycée, il mène une double vie. Il est également chanteur dans une chorale dotée d'un autotune qui corrige toutes ses notes. Son camarade Roman le félicite pour sa performance, admirant l'émotion et la technique dans sa voix. Mais Somo ressent une trahison intérieure, celle d'une inauthenticité qu'il ne peut pas ignorer. Le soir, épuisé par ce dilemme existentiel, il décide de s'échapper en se connectant à une machine simulant une conscience. Dans cet univers virtuel, il goûte enfin à un bonheur sans contrainte. Mais son rêve est brutalement interrompu. Il est tiré de sa transe par un appel tactile de sa mère située à des milliers de kilomètres de l'autre bout de la Terre. La sensation réaliste d'un câlin le laisse perplexe. Doit-il se réjouir de pouvoir ressentir la chaleur d'un contact humain malgré la distance ou déplorer la désorientation et l'inauthenticité constante dans laquelle cette technologie le plonge ?
Vivre mieux et plus longtemps, c'est la quête d'immortalité dans le transhumanisme. Il est clair que le mystère de la mort fascine autant qu'il effraie. Pourquoi devons-nous mourir? Et si cette fatalité n'était pas une fin en soi, mais un défi que nous pourrions un jour relever? De la pierre philosophale à la fontaine de Jouvence, en passant par les mythes de l'Éden, l'idée de transcender la mort habite notre imaginaire. Pourtant, ce rêve longtemps réservé aux récits religieux et mythologiques est aujourd'hui au cœur de projets scientifiques très sérieux, notamment dans le cadre du transhumanisme. Le transhumanisme qui place la technologie au service de l'amélioration de l'homme ne se contente pas de vouloir allonger la durée de vie. Il cherche à reconfigurer l'existence elle-même. L'immortalité devient ici non pas une fin mystique, mais une ambition rationnelle, une question de science et d'ingénierie. Mais pour vivre plus longtemps, ou pour toujours, nous devons réinventer notre relation au corps, à la conscience et aux limites. La mort est-elle vraiment sur le point de devenir obsolète? Et si oui, à quel prix? Alors avant tout, pourquoi est-ce que nous vieillissons? Avant de parler d'immortalité, il est essentiel de comprendre pourquoi nous vieillissons. Le vieillissement est un processus complexe causé par une accumulation de dommages au fil du temps. Ces dommages affectent les cellules, l'ADN et les organes. Plusieurs mécanismes clés entrent en jeu. Les télomères, ce sont des petits caps situés à l'extrémité des chromosomes, et ceux-ci raccourcissent à chaque division cellulaire jusqu'à ce que la cellule ne puisse plus se diviser, et sera donc considérée comme morte. L'accumulation de mutations au fil du temps vient à tuer l'ADN et vient à l'altérer. Ces altérations sont parfois irréparables et affectent le fonctionnement de nos cellules. Le stress oxydatif, ce sont des petites molécules appelées radicaux et qui endommagent les cellules et accélèrent le vieillissement. Ces mécanismes, autrefois vus comme inévitables, sont désormais considérés par certains scientifiques comme des problèmes de technique à résoudre. Aubrey de Grey, un chercheur en biogérontologie et figure du transhumanisme, affirme que la première personne qui vivra 1000 ans et peut-être déjà né. Alors, le domaine du rajeunissement cellulaire, c'est l'un des plus prometteurs. Les facteurs de Yamanaka, qui ont été découverts en 2012, permettent de reprogrammer des cellules pour qu'elles redeviennent plus jeunes. Des entreprises comme Altos Labs et Calico investissent des milliards de dollars pour développer ces techniques. Altos Labs est une entreprise soutenue par Jeff Bezos. Elle explore comment inverser les signes de vieillissement au niveau cellulaire. Quant à Calico, c'est une filiale de Google qui se concentre sur la prolongation de la durée de vie en identifiant les causes biologiques du vieillissement. Des expériences sur des souris ont déjà montré des résultats impressionnants. Des tissus vieillissants sont rajeunis et certains animaux voient leur durée de vie augmenter de 30%. La thérapie génétique est une voie explorée. En 2015, Liz Parrish, PDG de BioViva, a testé sur elle-même une thérapie expérimentale visant à allonger les télomères et prévenir des pertes musculaires liées à l'âge. Bien que les résultats soient encore discutés, cette approche pourrait un jour transformer la médecine anti-âge. Le transhumanisme ne se limite pas à prolonger la vie biologique. Il vise aussi à remplacer les parties usées du corps. La bioimpression 3D, par exemple, permet de recréer des tissus humains. À terme, des organes complets pourraient être imprimés à la demande, éliminant ainsi le besoin constant de donneurs. Les nanotechnologies promettent de révolutionner la médecine en intervenant directement dans le corps à l'échelle microscopique. Des nanorobots pourraient réparer les cellules endommagées ou alors détruire les cellules cancéreuses ou bien nettoyer les artères. Ce qui permettrait donc une prolongation de la durée de vie en maintenant le corps dans un état optimal. Pour les transhumanismes, dépasser la mort biologique est une étape logique. Mais certains vont encore plus loin. Pourquoi ne pas abandonner totalement le corps et transférer notre esprit dans un support numérique ? Deux projets concrets sont en cours. Nectom, une start-up californienne, travaille sur une technologie pour conserver un cerveau humain après la mort, avec l'espoir un jour de transférer son contenu dans un ordinateur. Replica AI et d'autres entreprises développent des chatbots capables de simuler la personnalité et les souvenirs d'une personne. Bien qu'ils ne remplacent pas une conscience, ils offrent un aperçu troublant de ce qui pourrait être l'immortalité numérique. En Corée du Sud, des expériences de réalité virtuelle permettent déjà à des familles d'interagir avec une version numérique de leurs proches décédés, recréée à partir de données personnelles. Ces avatars soulèvent autant de fascination que de malaise. Les implications philosophiques et éthiques sont nombreuses dans la quête de l'immortalité via le transhumanisme. On pourra certes vivre toujours, mais à quel prix ? Ces technologies coûtent des milliards de dollars à développer. Si elles deviennent une réalité, qui pourra y accéder ? Les transhumanismes affirment pouvoir améliorer la vie de tous, mais le risque d'un élite immortel et d'une masse mortelle est bien réel. La mort donne un sens à nos actions, mais si nous supprimons la mort, que deviendra l'urgence de vivre ? Peut-on encore trouver une signification ou une existence à une vie sans fin ? Une population qui ne vieillit pas poserait des défis majeurs. Alors déjà, on a le cas de la surpopulation. Plus de vie s'implique, alors plus on aura besoin de ressources dans un monde déjà surmené par les crises climatiques et alimentaires. On a également un blocage générationnel. Si les anciennes générations ne disparaissent plus, comment les jeunes pourront-elles prendre la place dans une société ? Si une copie numérique de nous-mêmes peut exister, est-ce qu'on peut vraiment être nous ? Est-ce qu'une conscience artificielle, bien que identique, reste une simulation ? Alors, dans ce cas, la frontière entre une vie et une imitation deviendrait floue. Mais est-ce qu'on peut éviter le pire ? Pour éviter les dérives, il est impératif d'encadrer le développement des technologies transhumanistes. La transparence et l'inclusion des citoyens dans ces débats sont essentiels. Des projets comme ceux de OpenAI, qui promeuvent une intelligence artificielle éthique et bénéfique pour l'humanité, montrent qu'il est possible de progresser tout en respectant nos valeurs fondamentales. L'histoire de Mark, qui lui, à la suite d'un accident de voiture, a été équipé d'une prothèse bionique dotée d'intelligence artificielle, illustre ces enjeux. Si cette technologie amplifie ses capacités, elle floute aussi les frontières humaines entre humains et machines. De même, Neil Harbisson, avec son antenne implantée directement dans le cerveau pour permettre une perception des couleurs qui vont au-delà du spectre visible, pose la question de la redéfinition de notre identité. Lorsque nos capacités sont décuplées, restons-nous encore humains ? La quête d'immortalité portée par le transhumanisme est l'un des défis les plus ambitieux jamais envisagés par l'humanité. Si les progrès scientifiques et technologiques semblent prometteurs, les enjeux sont colossaux. Il ne s'agit pas seulement de prolonger la vie, mais de réinventer ce qui signifie être humain. Alors devons-nous chercher à défier la mort à tout prix ou accepter ses leçons en reconnaissant qu'elle ne donne pas vie à sa valeur ? Car si l'immortalité devient un jour possible, ce sera peut-être moins une question de technique qu'une réflexion sur notre identité, nos désirs et nos limites en tant qu'être humain. C'était les échos de l'innovation sur le sujet du transhumanisme. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'ici.